Frédéric Négrel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien, membre actif de l'association 1851. Alors, le parc naturel régional du Verdon va programmer une série d'événements sur les 160 ans du soulèvement républicain de 1851. Alors, avant de parler de ces événements proprement dits, on peut peut-être parler du contexte. Dans quelle situation la France et la région se trouvent en 1841-48?
Ah, c'est une situation complexe, très évolutive, et dans notre région en particulier, puisque il y a la jeune République là qui vient de naître en février 1848 par une révolution parisienne. Une nouvelle fois, comme d'habitude, on peut dire, les révolutions se passent à Paris. Mais cette révolution va très vite s'étendre dans l'ensemble de la France parce qu'elle va prendre des décisions qui vont être importantes. C'est vraiment le socle de la République démocratique là, qui se met en place dès les premières semaines, avec les grandes libertés qui font la base de la République, la liberté de la presse. Tiens, on est à la radio, on n'est pas encore à la radio à ce moment-là, mais c'est les journaux qui vont se diffuser dans toute la France, la liberté d'association, la liberté de réunion, et puis de grandes décisions comme l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, l'abolition de la peine de mort en matière politique, et puis surtout, on pourra dire, c'est l'instauration du suffrage universel. Alors, universel presque, hein, puisque c'est un suffrage universel masculin, donc c'est quand même la moitié de la population, mais c'est la moitié de la population qui accède véritablement à la citoyenneté. Et dans notre région, on va s'en saisir. On va s'en saisir parce que notre région a des particularités. Je ne sais pas si on en parle immédiatement, mais notre région a des particularités alors qui vont faire que une grande partie des ruraux, parce que notre région est encore essentiellement rurale, une grande partie des ruraux de la région du Verdon va très rapidement adopter cette idée républicaine, cette idée de la République démocratique et sociale. Évidemment, les raisons sont complexes, hein, pour que nos paysans, là, qui sont justement presque tous paysans et presque tous propriétaires d'un champ. Généralement, un champ réduit, un petit champ qui ne permet pas de faire vivre une famille. Donc ces paysans sont très souvent obligés, pour joindre les deux bouts, de se louer chez les grands propriétaires, parce qu'il y en a, tout de même, hein, dans notre région, pour les grands travaux, hein, les moissons, les vendanges, les labours, ou alors de travailler dans la petite industrie qui est très répandue à cette époque-là dans nos zones, à Barjols, les tanneries, la faïence à Moustier, les chapelleries à Ops, les moulins à farine ou à huile, emploient de très nombreux petits propriétaires. Mais même s'ils sont de petits propriétaires, ils sont propriétaires. Et ils vont immanquablement être intéressés par la politique. Parce que dans cette période-là de grandes nouveautés politiques, il y a beaucoup de décisions qui se prennent à Paris, et des décisions qui vont immanquablement avoir des conséquences sur le bien, sur la vie de ces petits propriétaires.
Les noms, peut-être quelques noms au niveau parisien, qui a vraiment le pouvoir, quels sont les noms qu'il faut retenir.
Les noms qu'on retiendra, c'est les grands symboles. C'est Alphonse de Lamartine, poète. C'est lui qui est sur les barricades de février, et devant l'hôtel de ville de Paris, c'est lui qui va imposer le drapeau tricolore comme symbole de la République. On a Alexandre Le Druy-Rollin, qui est le leader des démocrates socialistes, celui qui va mener le parti qu'on va bientôt dénommer le Parti Montagnard, qui va avoir tant de succès chez nous. Alexandre Le Druy-Rollin qui va être contraint à l'exil. Il y a bien sûr Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est lui qui a poussé le gouvernement provisoire à prendre le décret d'abolition de l'esclavage. Mais il va pas s'arrêter là, Victor Schœlcher. Il va traverser tout le 19e siècle pour bâtir la République démocratique et sociale. Et il va être un des résistants de 1851, Victor Schœlcher, sur les barricades parisiennes, contraint à l'exil, comme un autre grand nom de cette période-là, Victor Hugo, qui va commencer sa carrière républicaine dans l'Assemblée législative de 1849 et qui sera un des grands pourfendeurs de Badingue, hein, qui va prendre le pouvoir à la fin de 1848. Le pouvoir, il est aux mains de républicains modérés au départ. Et c'est le général Cavaignac qui dirige le gouvernement à partir du mois, j'espère que je ne me trompe pas, là, du mois de mai 1848. C'est le général Cavaignac qui devait prendre place à la présidence de la République si tout s'était passé dans ses plans. Mais je voudrais quand même revenir un instant sur la complexité des choses qui font que dans notre région, on va adopter l'idée républicaine. Il y a cette histoire de petits propriétaires, mais ça ne suffit pas. Parce que des petits propriétaires en France, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de régions françaises où la propriété foncière est répartie comme dans la nôtre. Mais chez nous, il y a quelque chose de particulier. C'est le village urbanisé. Je sais qu'à Saint-Julien, où on se trouve en ce moment-là, Saint-Julien-le-Montagnier, c'est le contre-exemple complet. À Saint-Julien, l'habitat est extrêmement dispersé en de multiples hameaux. Mais c'est assez rare dans notre coin. Observez autour de vous, vous verrez que nous vivons dans de véritables villages. Des petites villes, des villes minuscules, quoi, où l'on reproduit non seulement l'aspect géographique, cette concentration de l'habitat en un lieu, mais par là même, on va reproduire également une composition sociale qui va se rapprocher de celle des centres urbains. Il y a là un mélange, parce que ce sont des villages qui sont quelquefois bien plus peuplés que ce qu'ils sont aujourd'hui, qui va reproduire bien pratiquement toutes les classes sociales qu'on peut trouver ailleurs, les paysans, bien évidemment, mais aussi ces ouvriers là qui travaillent dans cette petite industrie. Et puis, ce sont des bourgs de marché, pour la plupart de nos villages, où on va trouver donc des négociants, des commerçants, les inévitables avocats, notaires, les descendants des seigneurs, parce qu'ils sont toujours là. Et finalement, il va y avoir un brassage là, de la population qui va permettre, en particulier dans cette période où se répandent les libertés, ce que Maurice Agulon a appelé le patronage démocratique, qui fait que les classes populaires sont en contact permanent, parce que le village est urbanisé, parce que l'habitat est groupé, en contact permanent avec des classes sociales plus élevées, plus aisées, plus instruites surtout, qui ont adopté l'idée républicaine pour certaines depuis quelques années. Et cela va permettre ce que Maurice Agulon a appelé le patronage démocratique, c'est-à-dire la possibilité pour ces classes aisées d'instruire la masse populaire de l'idée républicaine. Mais ce village urbanisé, c'est là le troisième pan du phénomène complexe de cette adoption de l'idée républicaine, c'est que les Provençaux, dans notre région, ont développé, à cause de ce village urbanisé, une forme particulière, très originale de sociabilité, que l'on appelle la chambrette, la chambrée en français. La chambrette, c'est une association informelle, théoriquement d'une vingtaine de membres, des hommes, ce sont des associations uniquement masculines, qui se retrouvent, justement parce que l'habitat est groupé, tous les soirs, et quand ils rentrent des champs, ils se retrouvent dans cette chambrette. Il y en a un nombre assez important par village. Je cite par exemple Montmeillan, où on avait 12 chambrettes dans ce village. Tous les soirs, on se retrouve à 20, théoriquement, pour boire du vin. Il est moins cher qu'à l'auberge. Il est certainement de meilleure qualité, parce que au moins on ne le coupe pas. On ne paye pas de taxes. Pour jouer aux cartes, pour souper, on soupe à la chambrette. Les hommes soupent à la chambrette. Et puis, bien évidemment, pour blaguer aussi. On blague beaucoup dans les chambrettes. et en particulier dans ces périodes-là où souvent les chambrettes sont abonnées à des journaux. Avec la liberté de la presse, il y a des journaux dans les départements. Donc il y a des chambrettes qui s'y abonnent. Si elles ne sont pas abonnées, il y a toujours des journaux d'occasion qui circulent. Et donc, il y a le journal dans la chambrette. Et là, on va avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va y avoir quelqu'un dans la chambrette, il y a toujours quelqu'un qui est suffisamment instruit pour pouvoir lire le journal à haute voix. Le lire à haute voix à des gens qui, eux, ne savent pas lire. Et puis, il y a toujours quelqu'un aussi qui est capable d'en faire la traduction simultanée, parce que le journal est en français. Et bon, il y a aussi pas mal de monde dans les villages qui ne sait pas le français. Donc, cela va permettre, bien évidemment, d'être aux nouvelles, d'être informé sur les événements politiques, parce que bon, dans le journal, on ne parle que de politique sous la Seconde République. Et bien évidemment, après la lecture à haute voix, on va blaguer, on va discuter de ces événements, de ces informations, et c'est ça aussi qui va permettre la descente de la politique vers les masses. Parce que les chambrettes, ce sont des lieux où c'est pas encore les cercles que l'on va connaître à la fin du XIXe siècle. On ne s'y regroupe pas par option politique encore. On ne s'y regroupe pas non plus par classe sociale. On s'y regroupe plutôt par génération. C'est par tranche d'âge qu'on se retrouve dans les chambrettes. Donc, il y a toujours des gens instruits, capables de lire et de faire les traductions. C'est donc l'ensemble de ce phénomène-là, à la fois la petite propriété, le village urbanisé et cette forme de sociabilité qu'est la chambrette. C'est avec tout ça que l'on peut expliquer les options que un bon nombre d'habitants du Verdon vont prendre en faveur de la République démocratique et sociale.
Donc ça va durer 3 ans.
Ça va durer 3 ans avec des hauts débats. Des hauts débats parce que, bien évidemment, ces foyers républicains que sont les chambrettes, les autorités vont s'en apercevoir, vont être pourchassés. On va enfermer les préfets des Basses-Alpes ou du Var vont fermer à tour de bras ces chambrettes dès qu'ils peuvent se saisir d'un élément en leur défaveur. On a notamment à Draguignan, puisqu'à cette époque-là, Draguignan est encore la préfecture du Var, le préfet Haussmann, Georges Haussmann, celui qui va devenir bientôt le baron Haussmann, qui va redessiner les grandes artères parisiennes. Il a fait un stage dans le Var, il s'y est illustré, en suspendant des maires, en les révoquant même, et puis en fermant à tour de bras les chambrettes, ces foyers républicains. Des hauts et des bas, car la République, la jeune Seconde République, dès le printemps 1849, elle passe aux mains des royalistes, l'Assemblée nationale, et à une majorité royaliste. On a un président de la République élu en 1848. Bon, on connaît aujourd'hui la suite, on sait qu'il va entreprendre une carrière personnelle pour devenir empereur. Donc on a un futur empereur à la tête de la République et une assemblée législative qui, elle, est à une grande majorité royaliste. Et donc ces libertés qui avaient été conquises par la Révolution de 1848 sont petit à petit rognées. La liberté d'association disparaît quasiment. En tout cas, les associations politiques sont complètement interdites. La liberté de réunion également, on ne peut plus se réunir que lors des campagnes électorales. La liberté de la presse est également réduite, puisque il faut les journaux doivent verser un cautionnement assez fort, et puis surtout, pour la distribution des journaux, on ne peut plus les vendre dans la rue comme on le faisait auparavant. Pour pouvoir acheter un journal, il faut y être abonné. Et bien évidemment, les préfets vont avoir la liste des abonnés pour savoir qui lit quoi. Ça ne va pas faciliter le travail. Donc avec ces ennuis qui sont apportés au parti républicain, même s'il ne porte pas son nom, les historiens aujourd'hui sentent bien que c'est le prémisse. C'est notre ami Raymond Huard là, qui sera là à Gina Servi lors du colloque qui va être organisé. Raymond Huard appelle ça la préhistoire des partis. C'est la formation de ce qui va devenir plus tard le Parti républicain. Le Parti républicain a des difficultés pour, pour fonctionner avec, avec ces restrictions.
Voilà, et donc on arrive à la seconde partie de cette émission, consacrée donc aux événements en eux-mêmes de 1851.
Alors, si, avant d'arriver aux événements... eux-mêmes, je veux quand même dire un mot sur ce parti républicain là, qui avec cette restriction des libertés est contraint d'entrer dans la clandestinité. J'insiste un peu parce que c'est un peu ma spécialité, les sociétés secrètes, je veux parler des sociétés secrètes, c'est un peu ma spécialité, c'est ce que j'ai étudié particulièrement dans le Haut-Var, les sociétés secrètes du parti montagnard, les sociétés secrètes montagnardes de la Seconde République. Les républicains vont être obligés d'adopter ce mode de fonctionnement. Ils ne peuvent plus se réunir. Ils ne peuvent plus organiser de repas comme on le faisait souvent. Ils sont obligés de se rencontrer en cachette et de faire la propagande pour la République démocratique et sociale dans le secret. Ils ont l'habitude, hein, mais les républicains... sous la Restauration, la monarchie de Juillet, il en existait des sociétés secrètes. Vous avez certainement entendu parler des sociétés secrètes mises en place par Auguste Blanqui, par exemple. La société secrète la société des familles, la société des saisons. Mais ça, c'était des organisations qui étaient destinées à prendre le pouvoir par la force. C'était une élite du Parti républicain qui, pour entrer dans les sociétés de Blanqui, il fallait être armé, il fallait posséder un fusil et 25 cartouches. Rien à voir avec, justement, les sociétés de la Seconde République qui, elles, veulent fonctionner pour gagner les élections. Parce qu'en 1852, des élections sont prévues, à la fois des élections à l'Assemblée législative, pour renouveler cette Assemblée, une Assemblée où, quand il y a des élections partielles, et elles sont assez nombreuses là, dans les années 1850 et 1851, on voit de partout en France la poussée du parti montagnard, du parti démocrate socialiste. Donc on espère bien gagner ces élections, même si on a réduit les libertés. Dans la réduction des libertés, il y a aussi la réduction du suffrage universel masculin. Il y a 2 millions d'électeurs en France qui perdent le droit de vote à partir de la loi du 31 mai 1850. Sur la proposition de Louis-Napoléon Bonaparte, l'Assemblée législative royaliste ampute le suffrage universel près du quart des électeurs, évidemment, les électeurs socialement les plus précaires, ceux qui étaient assez favorables au Parti montagnard. Mais malgré cela, il y a un progrès du Parti montagnard, donc on compte gagner des élections législatives, mais aussi présidentielles. Oui, Louis-Napoléon Bonaparte, il ne peut pas se représenter... la Constitution le prévoit, le président de la République est élu pour un mandat, il ne peut pas se représenter en 52. Donc, on doit gagner. Et la société secrète, elle est là pour ça, pour faire cette propagande. Pour faire cette propagande et puis pour se préparer à un coup d'État que tout le monde voit venir, que à partir du début 1851, dans tous les journaux, quelle que soit leur option politique, on parle... du coup d'État qui va arriver. Donc la société secrète est faite pour ça. C'est intéressant, les sociétés secrètes, parce que dans notre région, on peut les étudier assez finement. On peut réussir à restituer la chronologie de leur formation, les personnalités, les catégories socio-professionnelles qui vont petit à petit s'agréger dans ce parti clandestin. Un parti clandestin qui a choisi la forme de la société secrète en gardant une certaine solennité, pour utilisant beaucoup de symboles pour essayer de marquer les esprits, de constituer un parti uni. Donc quelqu'un qui veut rentrer dans la société secrète, on va l'amener de nuit, les yeux bandés, dans un bastidon, à l'écart du village... et puis là, on le fait mettre à genoux, il va prêter un serment en posant la main sur un couteau ou un pistolet. Et là, il va prêter un serment dans lequel il se réclame du Parti républicain, et il s'engage à faire la propagande pour la République démocratique et sociale, à lutter contre la tyrannie tant politique que religieuse, dit le serment. Et c'est ce parti républicain clandestin, dans ces sociétés secrètes, qui communique entre elles sans vraiment être organisé. Hein. C'est plus organisé dans les Basses-Alpes que dans le Var, les liaisons entre les sociétés secrètes. Mais bon, on n'est pas devant une organisation politique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. C'est vraiment les prémices. Mais cela va avoir son importance pour les événements de 1851.
Et nous vous proposons la suite de notre émission consacrée aux événements de 1851 avec Frédéric Négrel, historien, membre actif de l'association 1851. Qu'est-ce qui fait qu'en 1851, effectivement, ces sociétés secrètes et puis beaucoup d'autres dans la population, je suppose, participent à cette insurrection?
Alors d'abord, c'est ce sentiment républicain, le fait que assez rapidement, c'est assez surprenant que, enfin, moi ça m'a toujours surpris que, pas quelques heures, j'exagère, mais un ou deux jours après le coup d'État à Paris, on soit dans nos villages qui sont assez retirés du monde. Vous savez, je viens d'un village, moi, Artignos, où il n'y a pas de route. On a eu une époque où il n'y a pas de route qui mène au village. Une charrette ne peut pas venir à Artignos. On ne peut venir à Artignos qu'à pied ou sur un mulet, quoi. Eh bien, on sait ce qui se passe ailleurs. Et on sait ce qui se passe à Paris. Et comme on s'y attendait à ce coup d'État, il était annoncé de partout, on savait qu'il allait venir, on sait ce qu'on doit faire. On connaît les articles de la Constitution de 1848. L'article 68 qui interdit au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que c'est ça le coup d'État. Hein. Le coup d'État du 2 décembre, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. L'article 68 interdit formellement, expressément, la dissolution de l'Assemblée nationale est interdite. Et un tel président, un président qui ferait un tel acte, serait immédiatement, de fait, déchu de ses fonctions. Et les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance. C'est le texte même de l'article 68. On le connaît, on l'a diffusé. On s'attend au coup d'État. Puis on connaît l'article 110 aussi de la Constitution. C'est des gens qui ne parlent pas français, hein. Ils parlent pas français, ils connaissent l'article 110 de la Constitution. Moi, je dois vous dire que personnellement, l'article 68 de la Constitution de la 5e République, je le connais pas, hein, aujourd'hui. Mais celui-là, il a été diffusé. L'article 110 de la Constitution. C'est un article dans lequel la République est mise dans les mains, dans la garde des citoyens. C'est les citoyens à qui on confie la garde de cette Constitution. La sentinelle invisible, disait-on en 1850 chez les républicains démocrates socialistes qui disaient « le coup d'État ne pourra pas fonctionner, la sentinelle invisible ». C'est Michel de Bourges, si je ne me trompe pas, un Varois, Michel de Bourges de Pourrières, même s'il n'était pas élu du Var, qui disait « la République ne peut pas être renversée, la sentinelle invisible veille ». Donc en connaissant tout ça, on sait ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, ceux qui ont adopté l'idée républicaine, parce que c'est ça aussi la grande nouveauté de la Seconde République, et dans notre région en particulier, c'est que ce sont des individus qui prennent des options politiques. Ça, c'est nouveau. Dans les campagnes, jusqu'à présent, quasiment tout le temps, on avait plutôt des réactions collectives. C'était des communautés qui réagissaient lorsqu'il y avait un souci social ou politique. On allait, la communauté, quand il y avait un conflit avec le seigneur, au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle, on allait chez le seigneur, au château, et on cassait tout, on brûlait tout. C'était la jacquerie, on appelait ça. C'était tout le village qui se rendait chez le seigneur. Les hommes, tous les hommes, les femmes, le curé, quelquefois. Il y a une de ces révoltes-là, il y en a encore une en 1848 à Montmélian. Il y a un grand propriétaire, là, Hopsois, qui a une grande propriété à Montmeillan, là, à Camillé. Et il décide, là, comme ça, du jour au lendemain, de faire clôturer sa propriété à Camillé par un mur d'enceinte. Et les villageois montmeillanais avaient l'habitude d'entrer dans cette propriété pour, dans la forêt, ramasser tout ce qu'on peut ramasser dans la forêt. Et à cette époque-là, c'était de sacrées richesses, le bois mort, les feuilles mortes pour faire de l'engrais. Bon, je parle pas évidemment des champignons, des différentes baies, je parle pas de chasse non plus, mais le fait de ne plus pouvoir pénétrer dans les bois, les Montmeillanais le prenaient très mal. C'est un conflit classique qui existe là dans notre région depuis longtemps. Et là, bon, il arrive à son paroxysme, donc ses révoltes. Donc, c'est tout le village de Montmeillan, curé en tête, qui se rend à Camillé, qui casse le mur, qui arrache les plantations. C'est la réaction archaïque. Tout le monde réagit en communauté, pas en individu. Ce qui est nouveau, foncièrement nouveau, dans la résistance de 1851, c'est que les réactions vont être individuelles, organisées dans le parti clandestin, mais individuelles. Ce n'est pas un village qui réagit, c'est la partie du village qui a adopté l'idée républicaine. Il y a une autre partie qui, elle, est du côté du parti de l'ordre, ou qui ne prend pas parti, mais
on a l'idée de la proportion.
C'est différent, bien évidemment, suivant les lieux. Ce qui est chez nous assez général, c'est qu'il y a une majorité d'hommes entre 18 et 50 ans qui sont dans le Parti républicain, ou en tout cas qui vont réagir et qui vont résister en décembre 1851. Une majorité dans la plupart des villages, mais avec aussi une forte minorité de gens qui soit ne veulent pas résister, soit sont du côté du parti de l'ordre. Mais bon, c'est rarement unanime. Peut-être il y a une exception à Baudinard où on en est presque là, mais généralement on est autour de 60% de républicains, quoi, dans nos villages chez nous, quoi. Donc puisqu'on est on est au courant de ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va résister au coup d'État, la marche à suivre. Moi, c'est ça qui me passionne le plus, je dois vous dire, hein. Même si c'est les sociétés secrètes que j'ai étudiées. Je crois que on est en train, là, de parler d'une résistance qui ne dure que quelques jours, hein. Dans le Var, on commence le 5 décembre et on termine le 10. Dans les Basses-Alpes, on commence dans la nuit du 4 au 5 et on termine le 9. Bon, il y a Barcelonnette qui va résister jusqu'au 15, mais voilà, ça dure que quelques jours. C'est pas, on ne peut pas comparer ça avec d'autres résistances. Enfin, on peut le comparer, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un engagement différent. C'est un petit moment de l'histoire, mais c'est un événement qui pour moi est marquant, justement à cause de ce que vont faire, la première chose que vont faire les résistants de 1851, c'est reprendre leurs droits. Ça, c'est une phrase qui me marque dans les archives de la répression. Quand on interroge les résistants, quand les juges de paix ou les juges d'instruction interrogent les résistants pendant la répression, hein, après la défaite républicaine, quand on leur demande pourquoi est-ce que vous avez pris les armes, qu'est-ce qui vous poussait, nous allions reprendre nos droits, répondait-il pour beaucoup. Nous allions reprendre nos droits. C'est-à-dire que on était dans une situation où il n'y a plus le président de la République. Le président de la République, il est déchu par l'article 68. C'est automatique. Il est déchu de ses fonctions. Les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance. Il n'y a plus d'Assemblée nationale, puisque le président l'a dissous. Cette Assemblée nationale, les députés, s'ils ne sont pas en prison... D'ailleurs, les députés, qu'ils soient républicains ou royalistes, hein, parce qu'évidemment, les royalistes l'ont assez mal pris aussi, hein, au départ en tout cas, le coup d'État. Les députés sont en prison, quand ils ne sont pas en prison, ils sont déjà partis en exil, comme Victor Schœlcher et Victor Hugo, par exemple. Donc il n'y a plus d'Assemblée nationale, finalement, il n'y a plus d'autorité. C'est ces autorités qui ont été mises en place comment ? Par le suffrage universel, masculin, je l'oublie pas quand même, suffrage universel. En fait, c'est quoi ? C'est ça qui rentrait déjà, c'est ça qui est fantastique, qui rentrait dans la tête des ruraux varois et basalpins. C'est que les autorités, si elles étaient en place, c'était que la nation souveraine leur avait confié ce pouvoir-là pour la législature, pour le mandat du président de la République. C'est une délégation de ce pouvoir de la nation souveraine. Et du fait qu'il n'y a plus de président, qu'il n'y a plus d'assemblée nationale, eh bien, le peuple reprend ses droits. Le citoyen reprend sa souveraineté. Et la première chose que vont faire ces citoyens résistants, eh bien, c'est de rétablir la République. Puisqu'il n'y a plus d'autorité, c'est eux qui ont le pouvoir en main, c'est eux qui ont la souveraineté nationale en main, et donc, ils ont le devoir. Et en tout cas, c'est comme ça qu'ils le lisent, et c'est comme ça qu'ils agissent, surtout. Le pouvoir de rétablir la République, et donc la première chose qu'on va faire, c'est de rétablir la République au plus près du citoyen, c'est la mairie. Et on va donc se rendre à la mairie pour installer une commission républicaine qui va rétablir la légalité républicaine à la mairie. Même si le maire est un ardent républicain, hein, il y en a qui étaient restés en place quand même, qui étaient passés à travers les mailles du filet de la répression des préfets. J'ai l'exemple, tiens, de Moissac-Bellevue. Ça, c'est intéressant. Moissac-Bellevue, on destitue le maire, ardent républicain, et on va nommer à sa place, comme maire provisoire, l'adjoint, qui est le président de la société secrète, au passage. Hein, l'adjoint. Et le maire, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il devient adjoint. Hein, c'est une interversion des rôles, mais qui marque que le peuple a repris ses droits, et donc il établit une nouvelle autorité communale. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors j'ai pas les chiffres pour les Basses-Alpes, mais bon, dans le Var, 87 communes ont pris les armes en décembre 1851, et sur ces 87 communes, 60, dans 60, on s'est rendu à la mairie pour rétablir le pouvoir. Et une fois qu'on s'est rendu à la mairie, qu'on a rétabli le pouvoir à la mairie, et bien maintenant, c'est direction la préfecture. Puisque, une fois que le pouvoir municipal est là, il faut ensuite rétablir le pouvoir départemental. Ça, c'est assez intéressant, parce, surtout dans notre région, c'est là qu'on le sent, quoi, hein, dans le Verdon. Parce que, sous la Seconde République, les républicains du Verdon étaient en liaison constante. Quand on voit la diffusion des sociétés secrètes républicaines, on s'aperçoit que on est passé d'un côté à l'autre du Verdon pour faire la propagande et pour diffuser ce mode d'organisation. On s'aperçoit qu'on organise des repas, des banquets, mais des banquets où on se cache un peu, clandestins, pas à la Verdière par exemple, où il y a des quinçonnés, des grésiliens qui viennent à la Verdière. On sait qu'à Sainte-Croix, on reçoit les gens de Bauduin et des Guilles. Enfin, on est en contact direct. Mais quand il s'agit de résister, et quand il s'agit de rétablir la légitimité républicaine, quand le peuple veut rétablir l'autorité légitime, eh bien là, la préfecture des Basalpins, c'est pas la même que la préfecture des Varois. Donc là, on va vers sa préfecture à soi, comme on est allé vers sa mairie. Nos Varois vont partir vers Draguignan, puisque c'est Draguignan la préfecture, et les Basalpins vers Digne. Alors oui, les gens des Basses-Alpes, c'est Manosque, c'est la ville de Manosque qui est ardemment républicaine avec le maire Joseph Buisson là, qui va organiser la marche vers Digne. Les Basalpins vont être d'ailleurs les gens du canton de Ries, enfin pardon, c'est pas le canton de Ries, mais les gens de la région de Ries vont se diriger, vont être les premiers à rentrer dans Digne. Digne va être la seule préfecture de France qui va être prise par les républicains lors... Il y a 32 départements hein, en France, plus Paris, qui ont pris les armes pour défendre la République, pour résister au coup d'État. Les bas alpins vont être les seuls à prendre non seulement les sous-préfectures, hein, Fort-Calquier ou Sisteron, Barcelonnette, mais vont également prendre la préfecture, le seul département de France. Et les habitants d'Oriès ou de Sainte-Croix, de Quinçon, vont être parmi les premiers à entrer dans Digne. Une fois la préfecture prise à Digne, on apprend qu'une armée, l'armée du coup d'État, l'armée qui est là pour aider Louis-Napoléon Bonaparte à réussir son coup, est en marche depuis Marseille pour venir mater la résistance basalpine. Et donc, on décide de sortir de Digne pour aller à la rencontre de cette armée en un point un peu plus favorable. Et on choisit, avec visiblement assez de succès, le lieu du défilé des mets. On va se placer dans le village, mais aussi sur les hauteurs. Et la défense républicaine est tellement ardente que l'on va réussir, et ça aussi c'est unique dans cet événement, unique en France, on va réussir à faire, à gagner. Les républicains vont gagner la bataille des mets. Et l'armée du coup d'État est bien obligée de faire demi-tour pour venir se réfugier à Vinon. Hein. Le colonel Parson a perdu la bataille. Mais bon, pendant la bataille, on a fait les prisonniers de part et d'autre. Et les prisonniers militaires vont apprendre aux leaders basalpins, aux leaders républicains, que tout est terminé, la résistance est terminée à Paris, qu'à Marseille, rien ne s'est passé, qu'à Lyon, rien ne s'est passé ou presque, et que donc les Basses-Alpes sont quasiment les derniers, enfin, il y a les Varois quand même, mais bon, les Basses-Alpes sont quasiment les derniers à résister, et donc là, les chefs républicains basalpins vont décider de laisser tomber, quoi. Vont disperser l'armée républicaine qui s'était formée là en marchant sur Digne, et chacun va rentrer chez soi. Il y a qu'André Ayot. André Ayot, dit Ayot de Volx, un garde forestier, qui va prendre, aujourd'hui on dirait, il va prendre le maquis, non, il va se réfugier dans la montagne de Lure, être pourchassé par l'armée du coup d'État. Il va réussir à s'en échapper, mais on en parlera tout à l'heure. Enfin, on va le rattraper à Marseille, finalement, quand il veut prendre le bateau pour partir en exil. Et on va le condamner à Cayenne, là où il va mourir. C'est la guillotine blanche à Cayenne. Il mourra là-bas quelques mois plus tard. Pour les Varois, eux, direction Draguignan, donc, théoriquement. Seulement, nos habitants du Verdon, ils pensaient, quand ils quittaient leur village, à partir sur Draguignan. Et puis, le général qui a pris en main l'armée républicaine, à Vidauban, la grande colonne républicaine, où il y a eu entre 6 et 8 000 hommes dans cette colonne, finalement a renoncé à aller prendre la préfecture à Draguignan, qui était bien défendue par le contingent militaire, pour venir rejoindre les bases alpins, parce qu'on avait des nouvelles des basses alpes, hein, même si on marche pas ensemble, les réseaux, les messages s'échangent, et on veut venir rejoindre les basses alpins pour ensuite marcher sur Grenoble, et puis ensuite, tous ensemble, aller sur Paris, rétablir la République à Paris. Donc, aux Arcs, on est monté vers le nord, et on est arrivé à Ops, et donc nos habitants du Verdon ne sont pas allés jusqu'à Draguignan. Ils ont rejoint finalement la grande colonne républicaine à Ops. Ils viennent de tous les villages du Haut-Var, depuis Vinon jusqu'à Coms. Hein. À Coms, on n'a pas marché, mais depuis Vinon jusqu'à Tourtour, on se rend à Ops et on grossit cette colonne républicaine qui est surprise le 10 décembre par l'armée du coup d'État, qui elle vient de Toulon, qui est passée par Draguignan, parce qu'elle pensait justement que les républicains s'y trouvaient, et qui remonte sur Ops, et le 10 décembre, c'est la bataille d'Ops. Et là, c'est pas comme on met, les républicains sont très vite submergés, non pas par le nombre, mais surtout par le professionnalisme de l'armée du préfet Pastoureau. Et donc perdre la bataille d'Ops, il y a une vingtaine de tués sur place. Je vais quand même dire un mot parce que c'est le début de la répression. de Martin Bidouré. Martin Bidouré, c'est aujourd'hui le symbole de cette résistance varoise. Martin Bidouré, c'est un jeune barjolais, un peigneur en chanvre, qui jouait pendant ces journées-là le rôle d'estafette, de messager entre Ops et Tourtour, où l'on avait installé une avant-garde républicaine pour garder justement la fameuse route de Draguignan. Et alors qu'il porte un message du général Dutheil au colonel Arambide, c'est le titre qu'on lui a donné, c'est un ouvrier de l'arsenal de Toulon, il est intercepté par l'armée du préfet et on lui tire une balle dans la tête. Et on le laisse là pour mort. Il est récupéré par un fermier du coin qui l'amène chez lui pour le soigner. Et quand le fermier apprend que ça y est, à Ops, c'est la répression que l'armée du coup d'État a gagnée, il prend peur. Et le maire de Tourtour va amener ce blessé à l'hôpital d'Ops tenu par les bonnes sœurs où on soigne Martin Bidouré, tant bien que mal, parce qu'il est mal en point. Et le 14 décembre, c'est-à-dire 4 jours après la bataille d'Ops, les soldats viennent à l'hôpital, sortent Martin Bidouré de son lit d'hôpital, le descendent sur la place, contre le mur de l'hôpital et le fusillent. Le fusillent finalement une deuxième fois. Martin Bidouré fusillé deux fois. La place d'Ops aujourd'hui porte son nom sur le jeu de boules. Là. C'est le symbole de cette barbarie de l'armée du coup d'État pour les Varois. Martin Bidouré est connu dans tout le Var. Parce que la répression, là, ça y est, elle est en route. Alors, heureusement, pas toujours aussi barbare. Il y a eu des exécutions sommaires à l'Orgue ou à Saint-Étienne-les-Orgues, du côté des Basses-Alpes également. Mais là, c'est la mise en place, finalement, pour la répression du deuxième coup d'État, moi je dis, du deuxième viol de la Constitution. Les gens qui vont être arrêtés, quelquefois jusqu'au mois de janvier, les gendarmes viennent dans les villages pour arrêter les résistants de décembre. Donc les résistants de décembre qui sont arrêtés vont être traduits, je ne dis pas jugés, parce qu'il n'y a pas de jugement, ils vont être traduits devant ce qu'on appelle les commissions mixtes. La commission mixte, il y en a une par département, donc une pour les Basses-Alpes et une pour le Var. Les commissions mixtes, ce sont des juridictions d'exception de 3 membres, le préfet, le procureur et le général commandant en chef, l'état de siège dans le département, qui se réunissent et qui examinent des dossiers. C'est sur dossier que l'on va prononcer une condamnation. L'inculpé, l'accusé, n'est pas présent. Il n'y a pas de confrontation entre la commission mixte et l'accusé. Donc, il n'y a pas de possibilité de se défendre, ni soi-même, ni par un avocat. Pas de possibilité d'appel. En fait, c'est l'indagation même de la justice là, hein, qui se passe là. Et les commissions mixtes, aussi bien varoises que basalpines, vont condamner à tour de bras les résistants. Pas seulement les résistants qui ont pris les armes, d'ailleurs, pas seulement ceux qui se sont rendus, qui étaient au Mai ou à la bataille d'Ops, mais quelquefois simplement les leaders républicains vont les condamner, pour beaucoup à la déportation en Algérie, pour 5 ans ou pour 10 ans, certains vont laisser la vie là-bas, quelques-uns, pas trop nombreux, à Cayenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, André Ayot, Ayot de Volx, beaucoup vont être condamnés à l'internement, c'est-à-dire au contraire à la résidence surveillée dans un autre département. Certains ont réussi à fuir, à aller se réfugier, beaucoup en Piémont, à Nice, puisque Nice n'est pas encore français en 1851, donc beaucoup sont réfugiés à Nice pour échapper à ces condamnations. Il faudra attendre, quelques mois, dès le printemps 1852, il y a les mesures de grâce qui sont prises, qui vont atténuer les condamnations. Mais bon, certains, une bonne moitié partent pour l'Algérie, pour la déportation, et ne rentreront que 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard en France.
Et nous vous proposons la suite de notre émission consacrée aux événements de 1851 avec Frédéric Négrel, historien, membre actif de l'association 1851. Voilà, donc nous allons poursuivre avec une troisième partie consacrée à l'héritage de ce soulèvement républicain. Alors on peut peut-être commencer par ce qui se passe à Paris. Donc, Napoléon a gagné.
Ah oui, Napoléon a gagné. Louis-Napoléon Bonaparte va devenir Napoléon III. Hein. Il va d'abord organiser un plébiscite dès le 20 et le 21 décembre 1851. Il veut faire avaliser son coup d'État par le peuple. Alors il va obtenir un grand succès, hein, puisque 95 ou 96% des votants vont approuver son coup d'État. Seulement ça, c'est des chiffres des pays de l'Est. Ça. Parce que j'insiste beaucoup là-dessus parce que on nous le dit souvent. Vous savez, on est dans une période là où il y a des ouvrages qui sortent régulièrement. Le dernier en date, c'est Christian Estrosi qui l'a écrit. L'historien Christian Estrosi, enfin le maire de Nice, a écrit un ouvrage qui essaye de réhabiliter Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc, dans tous ces ouvrages, on nous présente ce plébiscite. Oui, Ceausescu, lui aussi, avait 95%, ou Bourguiba, en Tunisie, il y a encore un peu de temps, avait aussi des scores de ce type-là. L'organisation du plébiscite est bien simple. On a un bulletin oui devant. Si on veut voter non, il faut l'écrire soi-même. Et on n'est pas à une époque de secret de vote. L'isoloir ne sera inventé que dans les années 1880. C'est la République qui a inventé le vote secret. Donc il faut écrire devant l'autorité, non, sur un bulletin, alors qu'on est en train d'arrêter les Républicains, les conduire au fort La Malgue de Toulon pour les mettre sur un bateau pour l'Algérie. Bien évidemment, ça ne va pas inciter grand monde à prendre le crayon pour écrire non sur le bulletin. Donc d'où ce résultat. Et un an plus tard, il organise un nouveau plébiscite, là aussi avec une écrasante majorité, pour se faire nommer empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Il met en place donc un régime que les historiens d'aujourd'hui appellent l'Empire autoritaire, durant lequel eh bien, les républicains continuent d'être pourchassés. Il va y avoir en 1856, une deuxième vague d'arrestations parmi les leaders républicains qui ne font que de la propagande. Là, il n'y a pas de prise d'armes. Et qui vont, pour quelques-uns, être condamnés encore à l'internement ou à la déportation. Et puis, à partir de 1860, le régime va se libéraliser. Il a le sentiment, avec raison, d'avoir gagné son coup, Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon III, là, à ce moment-là. Et il va se libéraliser jusqu'à prendre un premier ministre qui est un ancien républicain, un Varois, Émile Ollivier. Un Varois, son père était un des leaders de la révolution de 1848 dans notre région, Démosthène Ollivier. Et c'est ce qu'on appelle l'Empire libéral. Ce qui va permettre au Parti républicain, petit à petit, de présenter des candidats aux élections, de se recomposer, souvent à partir de cadres qui étaient des cadres de la résistance de 1851. Là, on dit que la grande renaissance du Parti républicain, c'est le procès Bodin en 1869. Alors là, j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'est bien ça. 1869... Il y a un procès au sujet d'une manifestation en hommage à Alphonse Baudin, qui est ce député républicain mort sur une barricade à Paris le 4 décembre 1851 en résistant pour défendre la République. Il est tué par l'armée du coup d'État. Et donc on a fait des manifestations pour se rappeler de ce martyr. Et il y a un procès assez retentissant où les jeunes avocats républicains vont se faire remarquer, et en particulier Léon Gambetta, qui va gagner là ses premiers galons, hein, qui vont le conduire le 4 septembre 1870 quoi, à être de ceux qui rétablissent la République et à devenir le leader républicain qu'on connaît. C'est donc la République qui revient. Je vous rappelle, hein, que Napoléon III va perdre le pouvoir suite à la défaite militaire de Sedan lors de la guerre franco-prussienne, pour laquelle il porte une lourde responsabilité. Parce que je veux revenir un instant sur les responsabilités de Napoléon III pour rappeler à M. Estrosi et aux autres que une des premières mesures prises par Louis-Napoléon Bonaparte dès décembre 1851, c'est de faire disparaître de tous les édifices publics, de tous les documents publics, la mention République française, mais ça on pouvait s'y attendre, puisqu'il veut rétablir l'Empire. Mais de partout, on fait enlever liberté, égalité, fraternité. On les a rayés sur tous les documents, sur tous les bâtiments, liberté, égalité, fraternité. C'est ce que fera Philippe Pétain. En 1940, le gouvernement de Vichy va faire ça aussi. Lui. Ah, vous savez, le gouvernement de Vichy, c'est un peu l'héritier, quoi, du système de Louis-Napoléon Bonaparte. Pour les valeurs. Donc, je reviens à 1870, au rétablissement de la République. Et bien souvent, ce sont les leaders résistants de 1851, 19 ans plus tard, qui reprennent le pouvoir, quoi. Enfin, qui le prennent cette fois-ci. Qui mettent en place la jeune République. Dans le Var, par exemple, c'est le préfet provisoire, celui nommé par le gouvernement du 4 septembre, c'est Paul Cotte, un industriel salernois, un industriel de la poterie, bien évidemment, enfin, des Malons de Salerne, qui devient le préfet. C'était le grand leader républicain en 1851, c'est lui qui devient préfet du Var, et il rétablit dans les communes les maires qui avaient été destitués, les maires républicains qui avaient été destitués en 1851. C'est le premier souvenir. Seulement, ça va être compliqué quand même pour les républicains, parce que, encore une fois, en 1871, aux premières élections, pour l'Assemblée législative, une nouvelle fois, c'est une assemblée royaliste qui est élue. Et encore une fois, la jeune République, elle est aux mains des royalistes. Mais oui, parce que tout ce que j'ai dit la fois précédente concernant l'éveil à l'idée républicaine qui s'est déroulée dans notre région, ça n'a pas eu lieu dans toutes les campagnes françaises. On est encore, là, en 1870, dans une période où, dans une grande partie des campagnes françaises, eh bien, ce sont les anciens nobles, ou les nouveaux bourgeois, ou les curés, assez portés sur le parti de l'ordre, le parti royaliste, qui font l'opinion publique et qui conduisent les paysans, les ruraux, plus généralement, à porter leur voix sur les candidats conservateurs. Donc on a encore une assemblée royaliste, et donc ces résistants de 1851... ils perdent le pouvoir qu'ils avaient acquis en septembre 70 et ils sont plus là, quoi. Ils ne sont plus là. Il faudra attendre, en fait, la fin des années 1870, le début des années 1880, pour qu'enfin la République soit véritablement aux mains des républicains, hein, après les événements de mai 1877, là. Enfin, dans les années 80, c'est les républicains qui ont le pouvoir. Et là, en 1881, on va voter une loi d'indemnisation des victimes du coup d'État. Et dans nos départements, là, dans le Var, il y a un grand nombre de familles qui vont en bénéficier, soit les victimes elles-mêmes, soit leurs conjoints ou leurs descendants. Et d'ailleurs, moi j'en rencontre souvent, hein, quand je vais dans les villages parler de cette histoire, des descendants qui me montrent les documents de la pension que le grand-père ou l'arrière-grand-père recevait pour son fait de résistance. Ça a permis, ça, de garder ça dans les familles, cette mémoire là de l'ancêtre. Alors, l'ancêtre qui est allé quelquefois en Algérie, alors des fois on le cache, ça, parce que il est allé au bagne. Il y a eu évidemment des périodes où on ne criait pas sur les toits. Quelquefois c'est des secrets de famille, et puis on les ressort quand on en a besoin, hein. Au moment de la crise boulangiste, là, quand le général Boulanger On pense qu'il va jouer de nouveau Napoléon III. Évidemment, on ressort cet esprit de résistance, cet esprit de conserver la République. On va s'en servir dans le Var avec Clémenceau. Clémenceau, dont la famille avait été résistante en 1851, qui se fait remarquer au moment du procès Baudin aussi, Georges Clémenceau, qui va être élu député d'extrême gauche du Var. Clémenceau, c'est un sénateur du Var. Du Var rouge, parce que là, on est rentré à la fin des années 1880 dans le Var rouge, le Var extrêmement républicain, et qui, une fois arrivé au pouvoir, lorsque Clémenceau fait tirer sur les grévistes, les Varois vont lui en tenir rigueur, parce que pour les Varois, la République, c'est pas ça, et le personnage tellement adulé lorsque il représentait l'extrême gauche à l'Assemblée nationale, ou au Sénat plutôt, eh bien, va être extrêmement détesté par ces républicains varois qui sont farouchement enracinés dans la République. On va s'en resservir aussi au moment, en 1934, lorsque les Ligues essayent de prendre d'assaut l'Assemblée nationale le 6 février 1934, lorsque la réaction républicaine s'organise pour défendre la République devant les Ligues le 12 février. À Digne, on organise une manifestation, comme dans beaucoup de villes, mais on place devant la manifestation un descendant d'insurgés de 1851. Le symbole, il est là. Nous sommes là, entrés en résistance, comme en 1851, pour défendre la République, quoi. On s'en rappelle, 80 ans, un peu plus de 80 ans plus tard. Puis bon, on va surtout s'en rappeler pendant l'occupation. Pendant l'occupation, la résistance de 1851, elle est dans la tête des résistants des années 43-44. Elle est dans leur tête. Elle est dans la tête des Barjolais, par exemple. Le 1er mai 1944, les Barjolais veulent manifester contre l'occupation, pour la libération. Et on est en pleine occupation, le 1er mai 44, pas de débarquement encore. Mais où est-ce qu'on va manifester sur le Forail? Devant le monument à Martin Bidouré. Le monument à Martin Bidouré, sur lequel est inscrit et gravé depuis 1903. C'est 1903 où on a installé le monument à Martin Bidouré à Barjols. La résistance à Martin Bidouré. C'est là qu'on se rend déposer des fleurs le 1er mai pour manifester cet esprit de résistance. Puis à Ops. À Ops, vous savez bien, il y a des maquis autour d'Ops. Il y a notre ami Jean Darol qui a publié un superbe livre, le cahier rouge du maquis, du lieutenant Vallier, un truc extraordinaire. Mais bon, c'est le maquis de l'armée secrète, et puis il y a le maquis FTP aussi, qui est là, autour. Et puis il y a les habitants d'Ops qui aident les maquis en les ravitaillant, en les informant, etc. Et dans Ops, il va y avoir la milice, l'armée allemande qui va venir fusiller des Opsois dans Ops durant l'été 1944. Donc à Ops, lieu de résistance là de la Seconde Guerre mondiale contre l'occupation nazie, eh bien quand les rescapés des maquis vont vouloir rendre hommage à leurs camarades qui sont morts dans les combats ou fusillés par la milice, ça se passe en juillet 1945. On va pas construire un monument. Le monument, il y en a un, il est déjà là. C'est le monument érigé en 1881, justement, par les Varois, pour rendre hommage à ceux qui sont tombés le 10 décembre 1851 sur cette place Martin Bidouré, en défendant la République. Parce que les résistants, alors, j'insiste toujours là-dessus, les résistants de 1944, c'est pas ceux de 1851. Ils ont pris un autre engagement. Ça n'a pas duré 3 jours.
C'est leurs petits-enfants, là.
C'est leurs petits-enfants, pour certains, pas pour beaucoup, vous savez, parce qu'il y a eu depuis un mélange de populations. Il y a beaucoup de ces maquisards installés sur Canjuers, là, avec le lieutenant Vallier ou dans le maquis FTP, qui sont pas varois, hein, qui viennent d'ailleurs, d'autres coins de France, et qui ont pris le maquis là où ils le pouvaient. Hein. C'est pas des varois, mais c'est pas grave. Même si c'est pas leurs ancêtres de sang, ce sont leurs ancêtres d'engagement. Hein. Parce que ces résistants de la Seconde Guerre mondiale, ils ont pris les armes pour libérer la France, bien sûr, de l'occupation allemande. Bien sûr. Mais ils ont pris aussi les armes, pour rétablir la République. C'est pour ça qu'ils ont lutté. Pour que la République soit rétablie. Parce que, comme Louis-Napoléon Bonaparte, Philippe Pétain, lui aussi, il a assassiné la République. Lui aussi, il a fait barrer liberté, égalité, fraternité de tous les documents. Et donc... ils se sentent, même s'ils viennent d'horizons très divers, ils se sentent les descendants de ces résistants de 1851. Le lieutenant Vallier, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas originaire de la région, le lieutenant Vallier, il va prendre comme nom le nom de... alors je ne sais plus si c'est le grand-père de sa femme... qui, lui, avait été condamné en 1851. C'est son nom de résistance, hein, son nom de clandestinité, Vallier, il vient de 1851. Jean Moulin était d'une famille de résistants de 1851. Donc je reviens à mes Aubsois. Mes résistants Aubsois, quand ils veulent rendre hommage à leurs camarades morts au combat ou fusillés par les nazis, eh bien, ils ont choisi ce monument qui était déjà là. Ils n'ont pas pris celui de la Première Guerre mondiale. C'était des soldats très respectables, bien sûr. Ils n'étaient pas soldats, ils étaient résistants. Ils ont pris celui de la résistance de 1851 pour apposer la plaque. On la voit aujourd'hui, bien sûr. La plaque des résistants FTP et AS morts à Ops en 1944, sur le même monument.
Voilà. Donc, en fait, jusqu'à cette... période de l'histoire, Seconde Guerre mondiale, on voit les effets de 1851 dans les esprits.
Bien sûr, c'est quelque chose qu'on conserve parce que ce sont des valeurs importantes à des moments cruciaux. Depuis 1944, heureusement, je touche du bois, hein, on n'en a pas eu besoin autant que ça de se rappeler ça. Enfin, si en 1997, notre association est née, hein, l'association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines, c'est qu'on était dans une situation tout de même où on avait quelques soucis avec la République. On avait le sentiment que dans notre région, dans les Basses-Alpes, mais bon, surtout dans le Var, il y avait quelques partis politiques, à Toulon par exemple, qui avait pris le pouvoir et qui nous semblait fort peu républicain. Donc il nous avait semblé à cette époque-là qu'il était nécessaire de faire vivre cette mémoire en racontant d'abord l'histoire et puis en enrichissant aussi l'histoire, parce que depuis 1997, les recherches historiques, soit par de très grands historiens dans les grandes universités, soit par des étudiants, soit par des érudits locaux, hein, ont permis d'accroître notre connaissance aussi bien de la Seconde République que de la résistance de 1851. C'est notre façon à nous aussi de faire vivre la mémoire, non seulement la diffuser, hein, la raconter, permettre aussi, mais aussi d'enrichir la connaissance historique. Ça nous permet aussi de faire agir pour l'idée républicaine. Je me rappelle, en 2001, on a vu beaucoup de monde lors du 150e dans les Basses-Alpes et dans le Var. Beaucoup de gens sont venus assister aux spectacles, aux conférences, aux films là, de Christian Philibert. Dans les écoles aussi, hein, dans les collèges, je me rappelle de plaques, de pièces de théâtre faites par les collégiens auxquels j'ai participé. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est que en 2001, il y a eu des Varois et des Basalpins qui ont agi pour la République. On va s'en rappeler de ça. que à un moment donné, une certaine période, il y a des, ben, je sais pas, au Luc ou à Gréoux, plus récemment, restons dans Gréoux, tiens, ben, les Griséliens se sont dit, tiens, on va baptiser un rond-point du nom des insurgés. C'est une, ça fait partie de l'histoire, ça. Que 150 ou 160 ans plus tard, aujourd'hui, on fasse ces actes, c'est de l'histoire. Et ça marque que il y a encore aujourd'hui, heureusement, eh bien, des citoyens qui ont cette volonté de marquer leur valeur républicaine en faisant des actes, en construisant. Et moi, je m'en réjouis.
Merci beaucoup, Frédéric Négrel, pour cette belle page d'histoire que vous nous avez racontée.